Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Salut à tous et bienvenue sur Touchdown Actu pour parler draft et parler besoin de franchise. Aujourd'hui, les Denver Broncos sont à l'affiche dans cette émission, au cours de laquelle on retrouve Jean-Michel Boujard. Salut Jean-Michel, j'ai réussi à retrouver
les mots. Hey, bonjour Greg.
Ouais,
je suis chaud là.
On va parler
AFC West.
Je m'en doute bien. On est dans le top 10. Ouais. On est dans la dernière ligne droite encore une fois dans l'optique de cette draft. Je m'en mêle un petit peu les pinceaux parce que du coup, sachez que l'émission du jour vous est présentée par Wilson, la marque qui fabrique The Duke, le ballon officiel de la NFL. Sachez que c'est avec ce ballon qu'ont été joués 100% des actions dans la grande ligue. Le ballon Wilson The Duke que vous retrouvez sur decathlon.fr. Au programme, mon cher Jean-Michel, pour cette équipe de Denver, un groupe assez complet, mais on va dire des besoins qui peuvent paraître rédhibitoires. C'est-à-dire qu'il y a quand même des postes aujourd'hui où on se gratte un petit peu la tête. Je pense que tu vas rapidement nous développer lesquels. Mais c'est vrai que j'avoue que l'année dernière, j'étais un petit peu hypé par les Broncos. Ils ont beaucoup été touchés par les blessures, notamment Von Miller. Mais c'est vrai que pour l'instant, on a du mal à savoir ce qui peut permettre aux Broncos de redresser la barre. Par quels besoins peuvent-ils le faire selon toi?
Ben, c'est exactement comme tu dis, parce que quand tu regardes par exemple leur attaque, tu vois très peu de besoins. Mm-hmm. Je veux dire, ils ont des receveurs en veux-tu en voilà, avec Cortland Sutton, avec Jerry Jeudy, avec Adjie Hambler. La ligne offensive a vraiment progressé. Tu as quand même du Garrett Bowles, Dalton Risner, le rookie Cushenberry qui est très bon, Graham Glasgow, Juwan James qui va revenir. Il y a du Titan avec Noah Fant, avec Albert O. Ils ont même Melvin Ingram en running back. Enfin, en gros, c'est une équipe vraiment très complète, sauf que il leur manque le poste le plus important. Et c'est ça le problème, parce que Drew Lock, ok, c'est un quarterback correct, mais correct pas plus. Donc forcément, le besoin prioritaire des Broncos, c'est le poste de quarterback. Et a priori, ils devraient le considérer à la draft, enfin j'espère pour eux. Ensuite, d'autres besoins, oui.
Non, vas-y. J'allais anticiper avec une question, mais on peut la reposer tout à l'heure. Vas-y, je te laisse enchaîner avec les autres besoins.
Les autres besoins, c'est un petit peu moindre, mais en défense, il y a quand même des retouches à faire. On a un safety comme Carrie Jackson qui va tenir sa place en 2021, mais qui est un petit peu vieillissant. Alors, il y a Justin Simmons à ses côtés qui est très fort, mais je pense que le poste de safety est à considérer. Je pense que le poste de linebacker aussi, parce qu'il y a G. Johnson qui est très bon, mais Josie Zewell qui est pas mauvais à ses côtés. Il faudrait quelqu'un de plus compétent en couverture. Et puis, peut-être le poste de running back aussi, puisqu'ils ont perdu Philip Lindsay. Alors, je dis pas au deuxième tour, ni même au troisième. Il y a Melvin Gordon, mais je pense qu'il faudrait qu'ils prennent également un running back, parce que Royce Freeman, c'est pas tout à fait ça.
Oui, on est d'accord, oui. Il y a quand même, moi, personnellement, le duo Gordon-Freeman, pour l'instant, ça m'enthousiasme pas plus que ça. Mais oui, ça me paraît quand même être les quatre besoins prioritaires. On passe donc à la mock, le premier tour, le besoin le plus criant du coup à considérer, un quarterback donc.
Bah ouais, moi ça me paraît la logique, s'ils le font pas je serais vraiment très 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 surpris.
Trade-up obligatoire alors, pour toi ou pas?
Ah, je pense, oui, je pense. Même si les Panthers ne sont plus dans la course, mais il y a toujours les Patriots qui sont derrière eux, qui pourraient monter, éventuellement d'autres équipes comme Washington qui pourraient monter quelque chose, sait-on jamais. Moi, je pense qu'ils doivent trade up, effectivement. Et j'espère pour vous que ce serait un trade up pour Justin Fields. Si les 49ers prennent Mac Jones, hein, on va considérer que Lawrence part en 1, Wilson en 2, puis Jones en 3. Donc si Fields est disponible, je pense qu'il faut absolument qu'il monte le chercher. Si c'est Trey Lance, ben j'espère aussi. Mais alors là, c'est d'un point de vue des fans des Raiders, parce que Trey Lance, franchement, voilà, ouais, prenez-le, moi je serais content.
Bah, il y a un projet. Alors, je l'avais dit, c'est vrai que pour le coup, Pat Shurmur à l'époque était le head coach des Giants, qu'on draftait Daniel Jones. Alors, c'est pas une super comparaison que je vais prendre, mais encore une fois, je le répète, je trouve que Trey Lance a quand même un aspect assez similaire dans son jeu qu'on pouvait retrouver chez Daniel Jones. Maintenant, est-ce que le fait d'avoir Daniel Jones à New York, ça a vacciné Pat Shurmur, ou est-ce qu'il va se dire, je veux absolument un joueur du même profil qui, je pense, pourra m'apporter plus de garanties. C'est un avis personnel, hein, éventuellement, ce serait en tout cas un avis personnel. Mais voilà la direction qu'ils prennent. Mais c'est sûr, encore une fois, tout dépend de la place où ils se trouvent. Je pense que s'ils ont le quatrième choix, ils estimeront prendre le meilleur des deux. Si on prend ton scénario, je pense que c'est quand même Fields. S'ils se font griller la politesse, en l'occurrence... S'il y a les Pats qui leur passent devant, par exemple, en surenchérissant un peu plus, c'est sûr que... mais ouais, j'aurais du mal quand même à pas les voir sélectionner un quarterback au cours de cette draft. Ouais. Ça me paraît quand même un besoin assez prégnant, et ne serait-ce que pour mettre un peu de pression sur Drew Lock. J'aurais peut-être préféré un vétéran, encore une fois, je l'avais dit pendant la free agency, un Fitzpatrick ou un profil comme ça, éventuellement, pour vraiment pousser Lock dans ses derniers retranchements et voir ce que tu arrives à en faire. Surtout que ça, c'est ma question à moi, mais... Il y a un nouveau general manager hein, du côté de Denver, la personne de George Patton. Et sans vouloir le faire passer pour celui qui veut mettre un peu la peau de banane par terre, je ne sais pas dans quelle optique il envisage l'avenir avec Vic Fangio. Donc, est-ce que le projet, c'est vraiment de prendre le meilleur joueur disponible, de faire un état des lieux et puis l'année prochaine de voir comment ça se passe, ou est-ce que vraiment l'objectif c'est de prendre le quarterback et en effet espérer enfin faire remonter cette équipe? Mais oui, c'est très clairement un quarterback potentiellement, au moins un deuxième tour dans l'escarcelle s'il faut un trade-up.
Ah oui, je pense, oui, pour monter de 9 à aller, on va dire 4 ou 5 voire 6, oui, il faut au moins un deuxième tour minimum, oui. Ouais, ouais. Mais pourquoi pas, ils ont beaucoup de choix ensuite en fin de draft. Et puis comme on l'a dit, l'effectif est plutôt complet. Alors oui, il y a quelques retouches à faire, mais c'est plutôt complet comme effectif. Par contre, il leur manque le quarterback. Donc pourquoi pas, hein, tu sacrifies des picks, mais tu prends un quarterback.
Oui, c'est ça. Et puis honnêtement, je pense que autant on peut dire ce qu'on veut de Vic Fangio en tant que head coach, je pense que pour développer des talents défensifs, même s'ils l'ont déjà fait, hein, ils ont pris Bradley Chubb assez haut. Je ne sais pas s'ils ont besoin forcément de prendre des défenseurs dès le premier tour, par exemple, pour booster un effectif, même s'il y a des besoins. Je pense que Vic Fangio a la possibilité, éventuellement, en récupérant des joueurs deuxième ou troisième tour, de les faire performer. Justement, dans cette logique-là, donc on resterait quand même sur un scénario où les Broncos restent 9e et où ils arrivent à récupérer leur quarterback. Donc, on va dire le quarterback qui reste.
Ouais, ouais. Trey Lance, c'est votre nouveau Team Thibault. Allez-y.
Tout est la bienvenue. S'il ne trade up pas, tout est la bienvenue sur le poste. Ouais. On passe au deuxième tour, justement, et tu les vois, justement, prendre un défenseur. Lequel est-il?
Ouais, un linebacker intérieur et quelqu'un qui est très très bon, c'est Jamin Davis de Kentucky. Alors c'est un joueur qui était plus vu comme un cinquième tour en début de saison, mais il a fait une saison 2020 fantastique. Alors c'est vrai, c'est sa seule saison comme titulaire, mais quelle saison il a fait! Je veux dire, il est très bon pour défendre la course, il a une grosse vitesse de réaction, il est très bon en blitz, en couverture justement, vu que c'est un besoin pour les Broncos. Il a fait 3 interceptions l'année dernière. À son pro day, on l'a vu, il est hyper athlétique, il a couru le 40 yards en 4.37, soit des temps meilleurs que des receveurs ou des cornerbacks. Et voilà, c'est un joueur très très rapide, athlétique, et je pense que deuxième tour, ça serait un choix très solide pour eux.
Oui, pour apporter un peu plus de polyvalence que ce que pouvait apporter un Josie Jewell et un profil peut-être encore plus athlétique que Jay Johnson, qui, au dernier Nobel, en tout cas au moment où on enregistre cette émission, est agent libre restrictif, qui n'a pas officiellement signé à Denver, mais qui pourrait le faire. Mais avoir un petit peu de concurrence sur ce poste-là, ce ne serait pas forcément une mauvaise idée pour les Broncos, surtout quand on sait qu'il faut continuer à apporter un petit peu de pression. Ça reste quand même un domaine qui pose problème du côté de Denver. Troisième tour, t'es resté sur un défenseur et justement t'as pris cette direction du backfield offensif dont tu nous parlais en début d'émission.
Ouais, le backfield défensif, oui. Et je suis resté sur un joueur très athlétique, c'est Jacoby Stevens de LSU. Parce qu'il est athlétique, lui aussi on l'a vu au Pro Day, il a couru en 4,50, il saute haut, il court loin, enfin il saute loin aussi, enfin c'est vraiment un athlète, en plus il est costaud. Alors il est arrivé à LSU, il a un petit peu joué receveur et puis ensuite il est passé en défense. Et il jouait soit safety, soit linebacker, il sait un petit peu tout faire. Mais donc tu vois, il est pas lent du tout, il est même très rapide et je trouve que c'est un joueur très polyvalent qui peut attaquer la poche avec des blitz, qui peut défendre les tight ends en couverture, qui peut faire beaucoup de choses. Alors il manque un petit peu de fluidité, c'est pour ça que c'est pas un deuxième tour. C'est pas un Trevon Moehring par exemple, mais c'est quand même un joueur très solide qui en plus a une grosse expérience avec LSU. Il a été champion, il a bien contribué cette saison-là. C'est un excellent joueur.
Oui, il est presque plus de production, je trouve, qu'un Grant Delpit, par exemple, l'année où LSU remporte le titre national. Après, voilà, c'est sûr que tu le disais, il y a forcément des caractéristiques en termes de vitesse, de gabarit qui jouent un petit peu contre lui. C'est vrai qu'il a. Il a un profil assez longiligne, hein, si je dis pas de bêtises, Jacoby Stevens. Donc c'est vrai que c'est bon, c'est il a un profil un peu bâtard au premier abord, mais très franchement, tu l'as dit, il y a quand même une production qui est notable et surtout une polyvalence qui est à mettre en évidence. Après, il faut savoir jusqu'où les équipes sont prêtes à monter pour le récupérer. Mais c'est sûr qu'un troisième tour pour Jacoby Stevens, en plus dans une classe de safety. Où très franchement la hiérarchie est loin d'être établie. On sait par exemple qu'un Paris Ford marque pas beaucoup de points ces dernières semaines, c'est un euphémisme de le dire. Donc sur la position de strong safety avec des joueurs hommes à tout faire, Jacoby Stevens et en défense et sur équipe spéciale, ça peut être un joueur avec lequel on peut facilement se régaler. On termine avec ta pépite. Tu reviens en attaque, on parlait de ce duo de running back, notamment Freeman Gordon. Pour toi, éventuellement, on peut se permettre de récupérer une petite pépite. Une pépite qui vient d'où alors?
Ben, elle vient de la conférence USA. Alors c'est vrai, c'est pas la meilleure des conférences, mais c'est Brandon Knox et c'est un joueur qui contribue. Ça fait 2 saisons qu'il fait 2 saisons fantastiques. C'est un coureur qui est très costaud, qui est très puissant. Je pense qu'il aura sa place en NFL. Alors c'est pas un running back numéro 1, c'est pas un running back non plus très très agile, mais par contre c'est un joueur qui sur des troisièmes et courtes, qui pour faire souffler le titulaire Gordon. Moi je pense que c'est un joueur qui va s'imposer, qui deviendra même numéro 2 à la place de Royce Freeman. Brandon Knox. On n'en parle pas beaucoup parce que voilà, il vient de la conférence USA, c'est pas la SEC, mais c'est un très très bon coureur.
Oui, ouais, c'est un joueur. Il était redshirt sophomore, hein, c'est ça. Hein, il est parti très
Ouais.
très tôt, assez étonnamment d'ailleurs. Mais c'est vrai que du côté de Marshall, il y a toujours cette tradition des running backs extrêmement performants. Là, pour le coup, oui, il y a quand même un alliage assez intéressant de physique et de vitesse. Donc c'est vrai que Brandon Knox, pourquoi pas. Ça peut être un pari à tenter. À quel tour, selon toi? Ça, c'est ma principale
Oh.
question sur Knox.
Bah, je dirais 5, 6e. J'hésite entre le 5 et le 6 parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de running back quand même à ce niveau-là. On sait qu'il y en a, allez, on va dire 5 qui partiront avant, qui sont vraiment les meilleurs. Tous les Javonte Williams, Najee Harris, etc. Jusqu'à Michael Carter, par exemple. Et ensuite, c'est vraiment très, très homogène et ça dépend du profil que tu veux. Donc, je pense que ça va le faire descendre. Et même au 6e tour, je pense qu'il peut être
Parce que
disponible.
moi, je t'avoue, alors j'en avais parlé en off, c'est vrai que mon alternative à moi, qui aurait peut-être été draftable un peu plus haut, c'était Trey Sermon, le running back d'Ohio State,
Oui,
qui forcément pâtit beaucoup, notamment de blessures à répétition. Mais encore une fois, pour un joueur que tu veux éventuellement placer troisième running back dans un premier temps, pourquoi pas? C'est après, si tu arrives à récupérer, à en récolter les fruits plus rapidement que prévu, ce sera tant mieux. Surtout si tu le fais évoluer dans un comité dans un premier temps. Je pense pas que ce soit déconnant. On a vu qu'il a joué un grand rôle, notamment dans la bonne fin de campagne d'Ohio State cette année, notamment en playoff. Et j'ai rarement vu un impact aussi important d'un running back d'Ohio State en playoff. J'allais dire depuis Ezekiel Elliott. Bon, alors J.K. Dobbins, c'était un super running back, hein, du côté de Columbus. Qu'on me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit, mais voilà, faut quand même se rappeler des chiffres stratosphériques que pouvait faire Ezekiel Elliott, notamment dans l'optique du titre national d'Ohio State à l'époque. Bah, Trey Sermon, c'était à peu près dans la même logique. Il a été précieux en finale de conférence quand Justin Fields était coincé un peu plus. Et c'est là-dessus. C'est pour ça, dans les 3 premiers tours, j'ai du mal à y croire parce que ce soit au Oklahoma ou à Ohio State, ces 2 programmes, ça a constamment été une bombe à retardement. Mais je me dis 4e, voire 5e tour. Franchement, s'il y a bien une équipe, s'il y a une équipe comme ça qui a besoin d'un running back, comme ça peut être le cas de l'équipe du Colorado, je me dis que le pari peut être tenté.
Oui, tout à fait. Et effectivement, en playoff, il a vraiment été impressionnant. Après, c'est vrai, comme tu dis, c'est l'historique de blessure. Et j'ai tendance à passer l'historique de blessure un peu plus facilement sur d'autres joueurs à d'autres positions. Alors, on l'a vu cette année, il est en bonne santé, mais quand même, c'est un running back. Et quand tu as une historique comme ça sur ton corps qui a déjà été marqué.
Bah, tu te sépares pas de Philippe Lindsay pour prendre un joueur, en effet, a priori fragile, c'est sûr.
Et oui, voilà, c'est ça le problème. Parce que tous les joueurs en NFL prennent des coups, tous les joueurs sont sujets aux blessures, mais running back beaucoup plus que toutes les autres positions. Donc c'est juste là un petit peu le doute. Au niveau du talent, oui, bien sûr, très serment, très bon joueur.
Très bien, voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur les Denver Broncos. Merci encore Jean-Michel d'avoir été avec moi au cours de ces derniers jours. Demain, vous aurez donc un focus tout particulier sur les Carolina Panthers. D'ici là, passez donc une très bonne journée et restez bien à l'écoute de Touchdown Actu au cours des prochains jours dans cette dernière ligne droite, encore une fois, qui nous emmène à la draft 2021. Ciao tout le monde.